Ce matin, pour mon message, je voulais aller un peu dans la continuité de cette fin de semaine dernière. Nous avons célébré la mort et la résurrection de Jésus parce que ben, c'est le fondement de notre foi, c'est notre raison d'être, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est chrétien. Et mon message de ce matin, c'est « Et maintenant? Et maintenant? Décaissez. Qu'est-ce que je fais maintenant? » Alors que je viens à Christ, je découvre la beauté de l'amour de Dieu exprimé de façon si merveilleuse et si magnifique à la croix. Non seulement je découvre le salut, mais je découvre aussi que j'ai maintenant une espérance parce que Jésus est non seulement mort, mais il est ressuscité. Et je sais qu'un jour, j'ai l'assurance de ressusciter au ciel avec lui. C'est magnifique. C'est la plus belle nouvelle qu'on peut avoir. Je suis sauvé, racheté, j'ai une espérance. Et maintenant, je dois vivre. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la suite des choses? Mes chaînes enfin sont enlevées. Oui, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois marcher dans cette nouvelle vie. Et ce matin, on va regarder un petit passage qu'on trouve dans l'Ancien Testament d'un homme qui a aussi dit ça. Il était arrivé comme à un objectif. Puis il va dire ça, il va dire, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et cet homme-là, c'est Josué. Josué, ça a été le leader, le chef d'Israël qui a fait entrer Israël dans le pays promis. En fait, des siècles avant Josué, il y a eu Abraham qui a reçu la promesse de Dieu que lui et ses descendants, Dieu allait leur donner un pays promis, un pays bon pour eux, un pays d'abondance et un pays qui allait leur appartenir. Et Josué, c'est l'homme qui va finalement conduire le peuple à prendre possession du pays. Ça va être un chef de guerre, mais aussi un homme de foi. Vous lirez le livre de Josué à la maison. C'est vraiment fou ce que cette génération-là, sous le leadership de Josué, a vécu. Ils ont vu les murs d'une ville tomber au son de leur voix. Ils ont vu le fleuve, le Jourdain, s'assécher pour qu'ils puissent le traverser. Dieu a arrêté littéralement l'eau de couler pour qu'ils puissent passer et traverser le fleuve. Ils ont vu le soleil s'arrêter dans le ciel pour que Dieu puisse leur donner plus de temps pour qu'ils aient la victoire complète sur leur ennemi ce jour-là. Ils ont vraiment vécu des choses incroyables. Et en fait, cette conquête du pays promis, pour nous aujourd'hui chrétiens, c'est comme la préfiguration, en fait, pas comme, c'est la préfiguration de ce qui allait être fait en Jésus. C'est l'image physique de l'œuvre spirituelle que Jésus allait faire. Là où le peuple d'Israël a conquis le pays promis, physiquement, Jésus, lui, a conquis la vie éternelle, la victoire sur la mort. Là où le peuple d'Israël a conquis un pays d'abondance, un pays où il nous est dit que coulait le lait et le miel. Alors peut-être que ça ne te parle pas trop comme image aujourd'hui, mais c'était un pays, ça voulait dire qu'il y avait de l'abondance. Là où le peuple d'Israël a conquis ce pays-là, en Jésus aujourd'hui, nous avons la vie en abondance. Et je t'invite, si tu n'étais pas là, à écouter le message de Pasteur Élise il y a 2 semaines, vraiment un bon message sur la vie en abondance que nous avons en Jésus. Et donc, ils ont conquis le pays promis, et voici ce que Josué va dire à la fin de sa vie. Après la conquête du pays, Josué arrive et c'est comme son message d'adieu. Ce texte qu'on va lire, c'est un peu son message d'adieu, et il va s'adresser au peuple. Il va commencer par leur rappeler, un peu comme on l'a chanté ce matin, il va leur rappeler tout le chemin qu'ils ont parcouru. Depuis où Dieu les a emmenés, toutes les expériences qu'ils ont vécues avec lui, tout ce par quoi ils avaient passé, comment il les a sauvés, délivrés, comment il a combattu avec eux, comment il leur a fait prendre possession des différentes villes et régions du pays. Et finalement, on arrive au verset 13 du chapitre 24 de Josué, et on lit ça ensemble. Là, c'est Dieu qui parle, puis ensuite, ça va être Josué. Au verset 13, Dieu leur rappelle, « Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé. » Des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitiez. Des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, et là Josué parle, il dit maintenant, et maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, donc ça c'est un fleuve, de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Après être entré dans le pays promis, Josué, ça se ressemble. Josué dit au peuple, c'est merveilleux, c'est génial, wow, on a vécu tellement de belles choses, mais maintenant vous avez une décision à prendre. Maintenant je vous lance cet appel, et cet appel est pour nous aussi aujourd'hui. Cet appel, C'est ça qu'on va regarder ce matin, l'appel de Josué qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Mais avant d'y aller, on va prier ensemble. On va prier, Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait dans chacune de nos vies. Seigneur, on ne veut pas être, pas s'habituer aux merveilles que tu fais. On veut se rappeler de ce que tu fais et aussi compter les merveilles, non seulement passées, mais présentes, que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et ce matin, viens nous parler. Viens nous parler, viens nous apprendre à vivre, Seigneur, la vie que tu as pour nous, cette nouvelle vie que tu as pour nous, Seigneur Jésus. C'est en ton nom qu'on a prié. Amen. Alors voici l'appel de Josué qui se décline en trois choses. La première, c'est ce qu'on voit au verset 14, début du verset 14, où il est dit « Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité ». La première exhortation, le premier appel de Josué au peuple d'Israël, et le premier appel pour nous, qui avons été sauvés par Jésus, c'est un appel à la consécration. Un appel à la consécration, à vivre de manière entière pour Dieu, laissant ce qui est derrière et fondant notre vie maintenant sur lui et lui seul. Fondant chaque parcelle de nos vies sur lui et lui seul. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Vivre dans la crainte de Dieu, ce que ça veut dire, c'est vivre en révérence, avec un respect, une reconnaissance si grande que ça va influencer toute ma vie. En d'autres termes, ça signifie que Dieu est ce que j'ai de plus précieux. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'on découvre l'Évangile, c'est merveilleux, on est émerveillé. Waouh, Jésus est mort et ressuscité pour moi. Mais ce qui peut arriver des fois, c'est qu'on traite l'Évangile un peu comme cette canne. Comme cette canne. Une belle canne, hein? Numéro de série, ouais, en tout cas. Très belle canne. Des fois, on peut traiter l'Évangile comme cette canne. Il y a quelques années, je me suis cassé un os dans le bassin. Je suis tombé d'une échelle sur le béton et je ne me suis pas relevé. Et ce que ça a donné, c'est que j'ai dû rester plusieurs semaines au lit. Et une fois que ça a commencé à se solidifier, j'ai dû prendre cette canne pour marcher. Cette canne m'a aidé à marcher comme il faut. Et par la suite, les semaines ont passé, je me souviens que même une fois, j'ai fait la louange avec cette canne-là, et c'était spécial. Et les semaines ont passé, et j'ai guéri finalement. J'ai guéri, donc ma canne, je l'ai rangée dans un pot. En fait, en ce moment, depuis des années, je ne sais pas pourquoi, elle est chez André et Céline, dans un pot, vous savez, le genre de pot où il y a les parapluies à l'entrée, là. Elle est là-dedans. Peut-être qu'ils imaginent qu'ils en auront besoin plus prochainement que moi. Mais donc, j'ai rangé cette canne, mais je l'ai gardée. Je ne l'ai pas revendue là, sur Marketplace. Je l'ai gardée au cas où. Au cas où, ça se peut qu'elle me serve. Si jamais je me reblesse, tu sais, je l'aurai déjà. Si jamais je me fais une entorse ou quoi que ce soit. L'Évangile n'est pas une béquille que je range dans un coin puis qui traîne dans un coin de ma vie. Puis que je vais aller la chercher au cas où je me blesse, au cas où je me fais une petite entorse, puis là, je vais la reprendre, puis ça va m'aider pour un petit bout. Puis après, je vais la re-ranger, elle va prendre la poussière. L'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est ce que j'ai de plus précieux. Ça ne s'est pas arrêté au jour où Jésus m'a sauvé, puis ça s'arrête là. Non, c'est toute ma vie, c'est ce que j'ai de plus précieux. Je vais pas prêcher tout le message avec ma canne. Et l'Évangile, le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus nous décrit dans Matthieu 13, 44 à 46. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles, un marchand de perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. L'Évangile, Jésus, c'est ce que j'ai de plus précieux. Au point que tout le reste, vraiment, devient secondaire. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce que Jésus est ce que tu as de plus précieux dans ta vie? Crainte de Dieu, c'est tout quitter pour lui, le mettre en premier, même quand ça demande des pas de foi. J'ai découvert Christ, alors je vends tout. Je suis prêt à renoncer à tout, sachant que j'ai mieux en lui. J'ai découvert Christ, et alors je me rappelle. Je me rappelle de ce qu'il a fait pour moi. En deux, trois mots, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie, en deux, trois mots. Vas-y, allez, c'est votre chance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vas-y, Marie. Il t'a libéré. Maëlys? Il t'a guéri. Il t'a donné la paix. Il t'a sauvé. D'autres? Jésus fait de grandes choses pour nous. Jésus est tellement bon. Je sais que c'est ça. Trois mots, c'est pas beaucoup pour décrire ça, mais je veux me souvenir d'où j'étais avant de connaître Jésus. Parce que c'est extraordinaire et il agit encore aujourd'hui dans ma vie. Alors, je ne veux, à cause de ça, je ne veux rien permettre. Je ne veux permettre à rien de se mettre entre moi et lui. Et c'est ça la crainte de Dieu, c'est ça révérer Dieu, c'est ça le servir avec intégrité. C'est de le voir comme son bien le plus précieux. Mais honorer Dieu, souvent, c'est difficile. Ça va demander une démarche de foi. Au même titre que le marchand dans Matthieu 13, le marchand de perles. Il est prêt à vendre toute sa cargaison, avec toute sa valeur, avec tout ce qu'il a investi, tout le travail qu'il a fait pour les ramasser. Il avait des perles, là. Mais il a tout vendu pour tout miser sur cette seule et unique perle. Ça prend d'être sûr de son coup. D'un point de vue d'un investisseur, là, ça prend que hey, t'es sûr de ta chatte. Ça prend de la foi en cette perle-là. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est particulier parce que l'expression la crainte de Dieu, qu'on voit beaucoup dans l'Ancien Testament, elle peut aussi, les commentateurs disent que ça pouvait aussi vouloir dire la vraie foi. La crainte de Dieu, c'est la vraie foi, la foi véritable. Pour craindre Dieu, pour l'honorer, pour être agréable à Dieu, ça demande des actes de foi, de foi. La foi qu'il va pourvoir. La foi qu'il va renouveler mes forces dans l'épreuve, dans la tentation. La foi que si je le place en premier, si je cherche avant tout ses œuvres, son royaume, il s'occupera de reste. Et voici quelques exemples pour nous dans la vie de tous les jours. Craindre Dieu, c'est refuser de travailler en dessous de la table. Ouais, ça, j'entends des petits rires, mais c'est pas toujours si évident que ça. Refuser de travailler en dessous de la table parce que je sais que l'or et l'argent lui appartiennent. Et c'est lui qui pour moi pourvoit à ma vie. C'est pas les petites magouilles que je vais réussir à faire. C'est lui qui pourvoit à ma vie. Craindre Dieu, c'est exiger de payer les taxes quand tu achètes une voiture d'occasion. Nous, nos deux dernières transactions, on a eu l'air d'extraterrestres parce qu'on voulait payer nos taxes à la juste valeur de l'auto. Et des fois, oui, ça semble injuste parce que les taxes ont été payées quand la voiture était neuve déjà. Mais la loi est comme ça. Et je dois craindre Dieu, honorer Dieu, sachant qu'il me demande de me soumettre à mes gouvernants et que c'est lui qui dirige tout ça, il a tout entre ses mains, il est souverain. Craindre Dieu, c'est lui réserver mon dimanche matin ou mon dimanche soir, parce que ça lui appartient. Parce que dans ma vie, l'église, le dimanche matin ou le dimanche soir pour B. Saint-Paul, ben, c'est à Jésus. Et je lui laisse. Ça, c'est une des choses que qu'Élise m'a appris quand on s'est rencontrés. On était très jeunes quand on s'est rencontrés et elle lève les yeux au ciel. Ouais. Elle travaillait à l'époque au American Eagle, donc une boutique de vêtements. Et vous savez, quand tu es ado, jeune adulte, puis que tu travailles dans une boutique de vêtements, bah, tu prends les horaires qu'on te donne, hein, on est d'accord. Et elle, ce qu'elle m'a appris quand je l'ai rencontrée, ce genre de choses, c'est qu'elle a toujours dit quand elle allait avoir une nouvelle job, c'est qu'elle disait à son employeur le vendredi soir, à l'époque c'était là où il y avait les réunions de jeunesse, vendredi soir et dimanche matin, je ne suis pas disponible. Ça prend un pas de foi. Ça prend, oui, ça m'est inconfortable. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué depuis dans ma vie. À chaque fois que j'ai eu un nouvel emploi, à chaque fois que j'avais une entrevue, je disais à l'employeur, je ne suis pas disponible le dimanche matin parce que je vais à l'église. Et oui, ça m'est inconfortable. Et oui, l'employeur, il va te le redemander par la suite, puis tu vas. Ça demande une certaine démarche de foi, mais Dieu honore ces choses-là. Parce que tu le mets en premier, parce qu'il est ce que tu as de plus précieux, Dieu honore ça. Amen. Je veux t'encourager à honorer Dieu, à craindre Dieu dans tous les domaines de ta vie. Craindre Dieu, c'est tout quitter pour lui, le mettre en premier. C'est un acte de foi qui parfois est extravagant. Des fois, va être complètement en rupture avec notre monde qui travaille 24 heures sur 24, par exemple. Mais c'est notre réponse à son amour qui est aussi extravagant, en fait beaucoup plus extravagant. C'est notre réponse à ce qu'on a célébré la semaine dernière. Je ne veux pas, après avoir goûté à la bonté de Dieu, à son salut, me satisfaire d'une vie chrétienne banale, où je vis tranquillement pour moi, et puis finalement, ben, on ne voit pas tant de différence entre l'avant et l'après. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, mais finalement, non, je veux une vie transformée. Ça, c'est une prière que j'ai faite il y a quelques années. À l'époque, je jouais dans un groupe, dans le groupe Impact, je jouais de la bass. Maintenant, j'ai ma succession, mais c'est pas vrai, c'est toi qui pourrais être mon père. Mais À l'époque, je jouais de la basse et j'avais écrit cette chanson pour le groupe qui s'appelle Une vie transformée. Et c'est encore ma prière aujourd'hui. Et je vous lis les couplets. Éclatant de grâce, rayonnant de bonté, tu m'as relevé de ma honte. À présent, je marche vers ton éternité, mais je veux plus qu'une vie rachetée. Garde-moi, ô Dieu, jusque dans le secret, de fermer les yeux sur mon péché, parce que je veux voir tes promesses, vivre ta sainteté et connaître une vie transformée. Est-ce que c'est ta prière aussi? Je veux plus qu'une vie rachetée. Merci Seigneur pour le salut. C'est tout pour moi, merci pour la croix, c'est la fondation de ma vie. Mais je veux plus qu'une vie rachetée. Je veux une vie transformée. Par ta grâce, par ta puissance qui agit aujourd'hui en moi, je veux m'attacher à tes promesses, avec foi, et que tu viennes me transformer de gloire en gloire, pour ta gloire. Je veux marcher dans la crainte de Dieu, le servir avec intégrité et fidélité. C'est le premier appel de Josué, un appel à la consécration. Et le deuxième appel de Josué, qu'il lance au peuple d'Israël, on le trouve dans la suite du verset. « Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. » Le deuxième appel de Josué, c'est un appel à une vie nouvelle. Josué leur dit « Vos ancêtres ont adoré des dieux. Les habitants de ce pays adoraient encore d'autres dieux. Mais vous mettez un terme à ça, là. Arrêtez-vous. Maintenant que vous avez découvert ce pays, le pays promis, rejetez leurs dieux et servez seulement l'Éternel. » Et ces paroles de Josué font écho aux paroles de Moïse qu'on trouve un peu plus tôt dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome. Chapitre 30, versets 15 à 18, Moïse s'adresse au peuple et il dit « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à le servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. Tu peux entrer dans le pays promis, arriver dans la vie chrétienne, goûter à la vraie vie et que cette joie, finalement, cet émerveillement ne fasse pas long feu. Si tu ne choisis pas qu'il y ait une coupure radicale entre l'avant et l'après, ben cette joie du salut va partir petit à petit. Si tu ne mets pas des choses en place dans ta vie pour qu'il en soit différemment. Ici, Josué parle d'habitude, d'une part, il parle d'habitude ancrée profondément depuis des générations. Il dit, il y a les dieux d'un côté, il y a les dieux de vos ancêtres, les dieux que vos ancêtres adoraient lorsqu'ils étaient de l'autre côté du fleuve. Et peut-être que c'est ton cas. Tu te dis, moi et ma famille, moi, mon père était alcoolique. On avait un témoignage tantôt. Mon père était alcoolique, mon grand-père était alcoolique. Pourquoi est-ce que moi, j'arriverais à m'en sortir? Ou mon père avait un problème de colère, ou ma mère. Pourquoi est-ce que ce serait différent avec moi? Ou peut-être que tu dis, il y a des séparations partout dans ma famille. Pourquoi est-ce que moi, j'arriverais à avoir une belle vie de couple? C'est un peu comme la vieille expression québécoise. Qu'on est né pour un petit pain. Il n'y a rien de bon pour moi, c'est un peu ça, c'est comme fataliste. Il n'y a rien de bon pour moi, c'est la misère, puis ça va être comme ça. Et des fois, on a cette mentalité-là. Mais voici pourquoi ça peut être différent. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, l'apôtre Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Jésus, dans ta vie, ne se limite pas à pardonner tes péchés. Il te pardonne, il te libère de la culpabilité et de la honte. Mais il veut aussi faire une œuvre de restauration, c'est vrai. Il veut faire une œuvre de guérison en toi. Il veut qu'il y ait cette coupure entre l'avant et l'après qui prenne place. Tu es une nouvelle créature, alors ne marche pas comme une vieille créature. Tu n'es pas né pour un petit pain. Tu es appelé à vivre une vie nouvelle, telle que décrite dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens 4, verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est l'Esprit de Dieu, alors que tu viens dans sa présence jour après jour, alors que tu t'attaches à lui, c'est l'Esprit de Dieu qui vient renouveler ton intelligence, qui vient te donner cette volonté et cette capacité à changer. Et c'est souvent ce que l'erreur qui est faite, c'est qu'on la religion, c'est comme tu essayes de faire des choses par toi-même. Mais la vraie vie chrétienne, c'est que tu as l'Esprit. Laisse-toi renouveler par son Saint-Esprit, laisse ton intelligence être renouvelée et te donner cette volonté et cette capacité à changer, à marcher dans cette vie nouvelle. Mais la réalité, c'est qu'on vient pas tous, on n'arrive pas dans la vie chrétienne non seulement au même stade de nos vies ou avec le même bagage. Selon ce que tu as vécu, tu vas avoir besoin de passer vraiment par des processus, soit de guérison, de restauration, comme j'en parlais un peu tantôt. Si tu as vécu des abus ou si tu viens d'un environnement dysfonctionnel ou peut-être d'un bel environnement, mais que dans le fond, ça t'a quand même affecté parce que ça arrive. Tu as une bien belle famille, mais ça se peut que les standards qui étaient fixés sont inatteignables puis t'ont complètement affecté ton estime de soi. Mais quel que soit ton passé, c'est un appel qu'on fait régulièrement ici et on est privilégié. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais on est privilégié dans une petite église comme la nôtre, de région, d'avoir des ressources comme une Céline qui fait de la relation d'aide, cœur à cœur. Et vraiment, ne passe pas à côté de cette chance. Chacun d'entre nous, on a des petits bagages, des fois des gros, la plupart du temps des gros. Et t'as pas besoin d'avoir dû quitter un gang de motards pour venir à Christ pour avoir besoin de relation d'aide, ok? Chacun d'entre nous, on a besoin de faire un travail d'introspection. Et je prie vraiment que chacun d'entre nous, là, on refuse le statu quo, juste comme on continue, parce qu'on a une vie à vivre. Donc ça peut être un suivi comme ça, mais ça peut être aussi une relation de redevabilité. Hein, Josué, il parle aussi des dieux, des cultures environnantes. Et moi, avec mon ami Phil, qui est avec les enfants ce matin, on se voit deux fois, une fois... pardon. On se voit une fois aux deux semaines. Puis, on se parle des vraies choses. C'est mon ami et c'est mon confident aussi. On se parle des vraies affaires et on se pose des vraies questions. Des vraies questions, je vous laisse imaginer ce que deux gars dans la trentaine peuvent se poser comme vraies questions. Qu'est-ce que ça signifie? On parle de choses sérieuses, mais on a aussi du fun. Des fois, on parle de poulailler, on parle de microbrasserie, etc. Mais c'est mon ami, et je crois que cette relation-là porte du fruit parce qu'on a tous les deux le même objectif. On a cet objectif d'honorer Dieu dans nos vies, mais aussi qu'il y ait une rupture entre nous et les dieux environnement, pour reprendre les mots de Josué. On veut qu'il y ait une coupure avec la culture environnante. Et c'est aussi ça de ça que Josué parle, les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Excusez-moi, les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. On a besoin de se soutenir, de se tenir ensemble pour marcher pour Dieu, pour lui rendre un culte à lui seul. Donc premier appel, un appel à la consécration, un appel à une vie nouvelle. Et finalement, le troisième appel se trouve au verset 15. C'est juste cette petite phrase-là. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Cet appel, c'est un appel au leadership. Un appel à influencer les gens autour de nous. Josué a pris sa décision. Il est à la fin de sa vie, puis il veut léguer quelque chose. Il a pris sa décision, il est résolu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour la vie et l'abondance. Mais moi, j'ai pris ma décision. Je vais vivre pour toi. Et non seulement ça, mais sa décision. Dans cette décision, il y a vraiment quelque chose, une notion de leadership. Une résolution à ce qu'il ne soit pas le seul de sa famille à servir Dieu. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et souvent, ce passage-là est un petit peu mal compris. C'est un passage très connu, hein. Moi et ma maison, l'ancienne version. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais la promesse, ce n'est pas parce que tu viens et parce que tu appartiens à Jésus, ça va être automatique. Ceux que tu aimes vont suivre Jésus. Ce n'est pas ça qui arrive. Ça ne se fait pas tout seul. Pour Josué, c'est une ferme décision, une ferme résolution qu'il prend. Moi, je choisis de servir Dieu et je veux que ma famille marche, elle aussi, dans cette direction. J'ai ce rôle, cette responsabilité d'influencer ceux qui dépendent de moi. d'influencer les personnes que Dieu m'a confiées et je prends cette décision, je vais m'attacher à Dieu et aller saisir cette promesse dans la prière et par sa grâce. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ça ne se fait pas tout seul, ça se passe dans la prière, mais aussi dans toute ta vie. Tes décisions quotidiennes qu'on a vues ce matin, de marcher dans la crainte de Dieu, de le servir avec intégrité, de le servir corps et âme, ta décision de mettre un terme au péché ancré depuis des années et des années, ta décision de te mettre à part du monde pour Jésus. Toutes ces décisions-là que tu vas prendre ou non vont influencer de la bonne manière ou non ceux qui dépendent de toi, ceux qui sont autour de toi. Et là, j'imagine certains qui disent non, et moi, je suis pas un leader, là. Moi, j'ai pas ça dans mes gènes, là. Je suis pas un leader. Moi, même mon chien, c'est lui qui me promène. Je parle pour moi, là. D'expérience. Mon chien, c'est lui qui me promène. Qu'est-ce que tu veux? Je l'assume. Mais j'aimerais te dire que c'est certain, tu influences quelqu'un. Tu influences quelqu'un. Et oui, je parle ici aux parents, premièrement. Sais-tu que dans une année, juste une petite statistique pour les parents, dans une année, vos enfants passent 60 heures, si tu es assidu à l'église, vos enfants passent 60 heures à l'église, en moyenne, si tu es assidu. Parce que c'est bon quand même. Mais avec les autres activités, avec tout ce qu'ils font, avec le fait qu'ils dorment, ils passent par année 3000 heures avec vous. D'après vous, qui est-ce qui a le plus de possibilités d'influencer et d'impacter la vie de ses enfants. C'est vous. Et on est reconnaissant pour le travail de Lauriane et tous les moniteurs à NV Junior. Et je crois que ça porte un fruit exceptionnel. Mais celui qui a le plus d'influence dans la vie de ses enfants, c'est toi. C'est les parents. Tes enfants te regardent. En fait, tes enfants te regardent plus qu'ils ne t'écoutent. Si tu as des enfants, tu peux dire Amen. Quelqu'un a dit, les enfants ne suivent pas nos conseils, ils suivent notre exemple. C'est vrai. Et ne t'attends pas à ce que ton enfant mette Dieu en priorité dans sa vie si ta phase de la semaine n'a rien à voir avec ta phase du dimanche. On parle souvent d'implication. Encore ce matin, il y avait une annonce pour l'implication. On en a besoin. Mais ta maison est le premier endroit où tu dois être impliqué. C'est ta priorité. Moi, je voudrais dire que vous tous là, je vous aime. Mais vous n'êtes pas ma priorité. Ma priorité là, après Jésus, elle se trouve assise au fond là-bas. Là. C'est pour ça que le lundi, qui est notre jour de congé à Élise et moi, si tu me textes pour me parler de quelque chose de l'église ou quoi, ou tu, à part si tu es à l'article de la mort, là, je suis pas là, je suis pas disponible. Parce que ma priorité, ben, c'est ma famille. Ma famille. Je ne veux pas être celui qui est tellement pris, tellement occupé à prendre soin de l'église, ou ça c'est pour moi, mais je veux pas être celui qui est tellement occupé à ses activités, à son travail, qui néglige son premier ministère finalement, qui est sa famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est une résolution, une détermination. Proverbe 22, verset 6 nous dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en dévira pas. Et vous savez, aujourd'hui, c'est pas très populaire de dire aux enfants quoi faire. Hein? Dans l'éducation, et je sais, moi, j'ai pas d'enfant, mais c'est pas populaire, hein? C'est plus tu veux ceci ou tu veux ça? Et là, tu choisis. C'est pas populaire d'obliger tes enfants à faire quelque chose, mais juste un petit témoignage. Un petit témoignage qui est personnel. Et vraiment, je dis ça avec. Vraiment, c'est un témoignage et un encouragement que je veux vous donner. Je ne veux pas m'ingérer dans vos décisions. Mais c'est un témoignage. Si je suis ici, moi, ce matin, si je suis là devant vous, si je sers Dieu dans ma vie, c'est en partie parce que mes parents m'ont forcé à aller à l'église. Moi, j'ai grandi dans l'église. Étant tout petit, j'avais des amis dans l'église. Et ces amis, vous savez, quand on est enfant, des amis d'enfance, là, bah, souvent, tu fais ton chemin. Mais comme mes parents m'ont forcé à continuer à l'église, étant ado, grandissant, même ado, jeune adulte, bah, ces amis sont restés mes amis. Et j'ai toujours été attaché à l'église. J'ai toujours eu un lien avec l'église. Et vous savez, l'église, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était quand même une bonne idée que Dieu a eue avec l'Église. Parce qu'il se passe vraiment de belles choses au travers de ça. Moi, mes amis, c'était mes meilleurs amis qui venaient de l'Église. Et je dois vous dire, je dois vous avouer qu'avec ces amis-là, on était trois en particulier, on a fait vraiment les 400 coups. Et pas juste les 400 coups, ah, c'est drôle, il y avait des choses que je dirais pas en avant parce que c'est juste, ça avait pas d'allure. Mais on avait toujours ce lien, on se retrouvait toujours à l'église parce qu'on était obligés, on n'avait pas le choix. Mais c'est parce qu'on était là à l'église que Dieu est venu nous chercher l'un après l'autre. Parce qu'on était à l'église. Et moi, je suis reconnaissant à mes parents quand j'avais 16 ans, les dimanches où ils m'ont réveillé, ils m'ont tiré du lit. Je suis reconnaissant à mes parents pour ça. Parce que sinon, je ne serais pas ici devant vous. Et aujourd'hui, ces amis-là, avec qui on a fait plein de niaiseries, ben, il y en a un de ceux-là avec qui je parle régulièrement. C'est un gars qui est dans le ministère, puis on échange, on s'encourage, on ne vit pas les mêmes réalités, mais on partage encore et c'est beau. C'est beau. Donc vraiment, je veux vous encourager avec tous les défis que peut représenter de vouloir donner une éducation chrétienne à des enfants aujourd'hui. Je vous encourage. Et je parle aux parents, mais je parle aussi à ceux qui n'ont pas d'enfants. Ne pense pas que tu n'as pas d'influence sur les autres, c'est faux. Tes collègues, tes amis regardent à toi encore plus depuis qu'ils savent que tu es chrétien. Ils vont regarder à toi, là. Je parle aussi aux ados à l'école, tu as une influence. Tu as une influence. Ne manque pas cette chance que tu as de parler de Jésus, d'être le représentant là où il t'a placé. Je parle de toi qui es le seul chrétien de ta famille. Tu as une influence, tu as un appel au leadership dans ta famille. Et je veux vraiment nous encourager à nous emparer de cette promesse qui suit une résolution. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On va finir avec un chant qu'on va chanter tout à l'heure, le chant qui s'appelle La Bénédiction. Et je voudrais qu'on termine avec cette prière comme une décision. Une décision pour ceux, oui, nos familles, mais aussi ceux sur lesquels on peut avoir une influence autour de nous, qui résume ce message. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et avant d'aller au chant, on va prier ensemble. Et Seigneur, on te remercie pour ton salut, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout le chemin que tu as parcouru pour nous jusqu'à la victoire sur la mort. Seigneur, on est tellement reconnaissant. Seigneur, on ne serait pas là ce matin sans ton œuvre, Seigneur, et merci de nous avoir amenés des ténèbres à la lumière, Seigneur. Merci parce que tu agis encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous voulons te dire que nous voulons marcher dans cette vie nouvelle que tu as pour nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec une révérence de toi, Seigneur. Que nous soyons un peuple ici, l'Église de Charlevoix, ici réunie ce matin, Seigneur, chaque personne, que nous soyons désireux de te mettre à l'honneur dans nos vies, de te mettre sur le trône de nos vies, Seigneur Jésus. Et tu connais les défis, tu sais dans quelle société on vit aujourd'hui ici au Québec. Et ça demande des fois des pas de foi, ça demande, Seigneur, du courage, ça demande de l'audace, de t'honorer et de marcher, Seigneur, comme d'une façon qui te reflète et t'honore, Seigneur Jésus. Alors donne-nous, je te prie, pour vraiment du courage et de la foi dans ce lieu ce matin, que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Et que cette décision, Seigneur, notre prière, c'est que cette décision touche tous ceux qui nous entourent, tous ceux que nous aimons. Et on veut ce matin te les apporter. On veut prier cette prière, Seigneur, que ce chant qu'on va chanter soit vraiment la prière de nos cœurs pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos familles, parents, amis, proches qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que Seigneur, ta bénédiction et ta faveur s'étendent, Seigneur, tout autour de nous, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes, mais par ton esprit, nous pouvons avoir une influence puissante, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci pour ce que tu fais et ce que tu vas encore faire dans les jours, dans les semaines et les mois à venir. On s'attend vraiment à toi, notre Dieu. On s'attend à toi, Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.